personnel est une question qui traverse nos vies aujourd'hui. Et pourtant, le développement personnel n'a pas de définition institutionnelle et cette formule peut être utilisée pour légitimer des méthodes très variées. L'invité d'aujourd'hui est consultant et formateur dans les stratégies du business développement via le digital et a un intérêt profond pour le développement personnel. Bonjour Grégory Cayolle.
Bonjour Guylaine.
Eh bien, merci d'être là dans les studios de FM+.
Et merci de me recevoir.
C'était avec grand plaisir. Alors, Grégory Cayolle, vous travaillez, je l'ai très brièvement dit, dans les stratégies numériques digitales pour le développement des entreprises en Occitanie.
Exactement.
Alors, en quoi consiste votre travail, votre quotidien professionnel, Grégory Cayolle ?
Tout simplement, l'idée, c'est de permettre aux entreprises aujourd'hui de comprendre comment fonctionne l'approche du digital. C'est un milieu qu'on découvre à peine. Je pense qu'on peut commencer à parler d'expertise à partir de 10 ou 15 ans d'expérience dans un domaine donné. Malheureusement, ou bien heureusement pour nous, le digital, c'est un milieu dans lequel on est encore à l'étape du tâtonnement. On découvre, on cherche à comprendre, on questionne beaucoup. Et pour les personnes qui ont eu l'opportunité de travailler dedans de manière un petit peu plus poussée, on commence à trouver du sens, on commence à trouver des techniques, des méthodologies à suivre, des outils à utiliser. L'idée ici, c'est de rationaliser cette approche, d'essayer de permettre à tout le monde de comprendre comment on peut d'abord développer sa notoriété sur les réseaux sociaux ou sur les outils digitaux, et comment, grâce à cette notoriété, on peut développer l'influence de sa marque et ensuite développer les revenus de sa société ou de son activité.
Alors, est-ce que ça remet en question des techniques de travail qui étaient à l'œuvre dans les entreprises jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à 10 ans? Ou est-ce que c'est une simple adaptation, finalement, voilà, c'est juste un outil qui change, mais les principes sont ceux qu'ont appris les communicants d'il y a 20 ans? C'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est voilà, des petites transformations légères?
C'est une excellente question, parce que je dirais que c'est à la fois une révolution, parce qu'il y a une grosse, on va dire, disruption, pour utiliser un gros mot, il y a une grosse disruption dans l'approche qu'on en a, justement, du business. On n'a plus affaire à la même cible, on n'a plus affaire aux mêmes besoins, on n'a plus affaire aux mêmes personnalités, on n'a plus affaire à la même époque, ou aux mêmes outils, aux mêmes médias de communication. Aujourd'hui, tout va très vite, et la majorité des consommateurs ou de nos audiences sont confrontés à énormément de messages tous les jours. Le principal challenge aujourd'hui dans cette masse d'informations, c'est de ne pas se noyer, c'est d'arriver à sortir du lot, d'arriver à cibler la bonne audience et à se faire voir au tout début du processus. Mais une fois qu'on s'est fait voir, ce qui n'est pas forcément le plus compliqué, qu'est-ce qu'on fait de cette visibilité et comment on la transforme? Et ce comment, il est très actualisé. Cependant, pour revenir sur la question de base, il reprend certaines des approches et des techniques qu'utilisaient nos parents, peut-être nos grands-parents dans le business.
Alors, Grégory Cayolle, ça c'est votre travail, votre vie professionnelle. Et vous êtes donc indépendant, vous avez une société basée en Occitanie, à Nîmes, Montpellier.
À Montpellier.
Et on peut très bien, peut-être vous pouvez dire où est-ce qu'on peut vous joindre pour cet aspect-là,
alors,
de votre vie.
Ben pour cet aspect-là, physiquement, on peut me joindre dans les soirées LinkedIn locales Montpellier que j'organise mensuellement. Le principe SM, c'est de permettre aux professionnels de se rencontrer au-delà de cette étiquette professionnelle et de se rencontrer en tant que personne. Le cas échéant, il y a une page qui s'appelle LinkedIn locales Montpellier sur LinkedIn, où on peut avoir accès à toute l'actualité. Et de manière directe, de manière, on va dire, digital, soit par mail, contact@grégorycayolle.com, soit par téléphone. Ça, vous l'aurez par mail. Dès que vous m'écrivez, vous recevez le numéro de téléphone.
Mais je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, vous n'êtes pas venu pour directement pour cela. Hein. On réserve cette partie-là à vos contacts privés. Vous êtes venu, Grégory Cayolle, car vous vous intéressez d'une manière professionnelle, ou plus exactement personnelle, en lien avec votre travail, au développement personnel. Alors, pourquoi ? D'abord, merci d'être venu nous proposer cette émission. Je la reçois avec joie. Pourquoi et comment plutôt vous vous intéressez au développement personnel, vous qui êtes finalement dans le digital ? on va dire, la technologie, alors que vous vous intéressez, vous, à l'humain. Hein, c'est un peu paradoxal, finalement.
C'est une excellente question également. Pour y répondre, je pense que je vais donner plusieurs réponses. La première, c'est qu'au-delà de ce que je fais dans le travail, la partie développement personnel, c'est une partie qui m'a toujours passionné. Avant même de prendre conscience que le développement personnel existait, avant même de prendre conscience que c'est un exercice auquel j'aimais m'adonner, c'est un exercice auquel je me suis adonné toute ma vie depuis l'enfance, sans le savoir. Alors, qu'est-ce que le développement personnel ? Tout simplement, c'est, si on essaye de synthétiser ça au maximum, c'est même pas une capacité, c'est une volonté. La volonté de questionner, de chercher à comprendre, de chercher à se comprendre, de chercher à comprendre l'autre, de se comprendre dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, dans sa relation au succès, dans sa relation à l'échec, dans sa relation à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle. Et au-delà de questionner, ben encore une fois, comprendre, alors c'est essayer de... Notre esprit fonctionne de telle manière qu'il y a une partie consciente, une partie inconsciente. On est tous conscients de ce qui se passe consciemment. On n'est pas forcément conscient de pourquoi ça se passe, d'où ça prend racine, de comment ça se passe et de comment on peut le gérer, identifier des problèmes ou les solutionner. Et le développement personnel, c'est justement la quête de ce savoir-là, de cette compréhension-là. Savoir comment on peut gérer tout ça.
Alors, j'entends une démarche intellectuelle, mais est-ce que ça ne concerne pas aussi l'épanouissement finalement de la personne dans sa finalité, en finalité de ces questionnements?
Si, alors je pense que c'est la clé de voûte du développement personnel, c'est l'épanouissement et le bonheur. Et d'autres partagent cette opinion, mais alors là c'est une opinion personnelle. Il me semble que le développement personnel, c'est aussi la quête de la sagesse, qui elle, selon moi, c'est personnel encore une fois, est la clé du bonheur. Être sage, c'est être heureux. Et pour être heureux, il faut être sage. Enfin, on n'est jamais sage, mais on chemine vers la sagesse.
Alors, est-ce que c'est... Donc là, vous vous êtes présenté de manière professionnelle. Est-ce que vous faites le lien du développement personnel avec le travail? Est-ce que c'est possible, finalement, d'atteindre cet épanouissement, cette sagesse, via une activité professionnelle? Voilà, on sait qu'on ne l'a pas forcément choisi. Est-ce que c'est possible?
Je pense que oui. Alors... Selon moi, chaque personne, dans chaque personne se cache une personne et un professionnel. On a ces deux facettes qui sont à la fois complémentaires et distinctes. Le personnel ne se limite pas, enfin la personne ne se cantonne pas au domaine du personnel, elle intervient tous les jours dans le professionnel. Comprendre comment cette personne ou même ce professionnel fonctionne, comprendre quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs forces, quels sont les questionnements ou les limites ou les croyances qui opèrent, savoir les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, savoir les traiter, savoir les solutionner, c'est extrêmement important. Ça peut aider à gérer son stress, ça peut aider à aller chercher des objectifs qu'on ne serait pas allé chercher, ça peut aider à gérer sa fatigue, ça peut aider à être plus productif, ça peut aider à gérer sa communication avec les autres ou sa communication avec soi pour éviter des conflits, pour en débloquer. Il y a une infinité de choses qu'on peut faire. Et aider, c'est de prendre conscience que... Alors, pour revenir un petit peu en arrière, je vais parler du pourquoi. Le pourquoi, on discute de tout ça aujourd'hui. Enfin, pourquoi je souhaite partager là-dessus. Dans ma vie, aujourd'hui, je suis passé par... Enfin, pour l'instant, par deux burn-out. Un burn-out qui était essentiellement causé par du pro, mais qui a eu des incidences majoritairement personnelles. Il y a quelques années, et un peu plus récemment, un burn-out qui était causé par du perso, mais qui avait des incidences sur ma vie professionnelle. Comme quoi, c'est assez entremêlé. À l'époque du premier burn-out causé par le pro, donc les incidences personnelles ont été que ça a détruit la personne, ça a détruit ma confiance en moi, ma perception de moi. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Marcus Anderson qui parle du cadeau de l'adversité, et c'est une idée que j'aime beaucoup. Quelque part, être détruit ou traverser l'adversité, c'est se relever plus grand une fois qu'on a trouvé les clés pour débloquer les problématiques créées. Après avoir traversé ce burn-out qui m'a détruit, disons, d'un point de vue personnel, je me suis relevé beaucoup plus construit, beaucoup plus fort, et c'était un beau cadeau d'un point de vue personnel. Et je pensais que tout était OK, que toutes les clés étaient là et que ça n'arriverait plus. Puis, le deuxième burn-out est arrivé et on est passé sur un burn-out causé par du perso, mais qui avait des incidences pro. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beau aller mieux personnellement, si on fait passer le pro à 2000% devant le perso parce qu'on est trop concentré sur ses objectifs et qu'on s'oublie, on a beau être construit, on ne nourrit plus la personne et elle s'éteint. Et si elle s'éteint, c'est elle qui drive le professionnel et il n'y a plus d'énergie pour aller chercher ce qu'on a à chercher dans le pro. Donc l'idée, c'est de communiquer aujourd'hui là-dessus pour permettre peut-être d'aider à comprendre ou à prendre conscience que des fois, quand c'est difficile dans le pro, il y a peut-être juste quelque chose à solutionner dans le perso.
Voilà, vous avez là annoncé finalement votre programme sur les émissions que nous allons passer ensemble, Grégory Cayol.
Exactement.
Alors, nous allons y revenir en détail juste après la pause musicale que vous nous proposez pour cette première émission. Vous l'avez choisie, vous pouvez nous en parler ou préférez qu'on l'écoute et on la désannonce juste après ?
On peut en parler rapidement. C'est une chanson qui me plaît beaucoup, qui me touche beaucoup, qui est représentative d'un style musical que j'aime beaucoup et qui m'a été envoyée par une amie qui est très férue de développement personnel avec laquelle je partage des discussions passionnantes à ce sujet et qui m'a été envoyée juste après mon premier burn-out, donc le burn-out perso à l'époque où justement j'avais trouvé les clés et où je refaisais surface. Donc c'est un symbole fort.
On écoute et on se retrouve tout à l'heure.
Thank you.
To Believe Cinematic Orchestra, c'était le choix de Grégory Cayol pour faire une pause musicale lors de ce sujet que nous développons avec Grégory, le développement personnel. Je rappelle que Grégory Cayol est consultant dans les stratégies du business développement via le digital. Il a tout à l'heure donné ses coordonnées pour toute personne intéressée pour un contact avec lui, mais là, il est question du développement personnel. Alors, vous avez évoqué, Grégory, les deux burn-out dont vous avez été victime, l'un dans une situation professionnelle, le deuxième dans une situation personnelle. Alors, comment est-ce que le développement personnel, cette question-là, vient guérir ou vient concrètement... résorber ces soucis de vie, finalement, ces soucis existentiels.
Écoutez, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez soulevé un point clé tout à fait par hasard. La notion de victime, être victime est très très importante, c'est un des points essentiels du développement personnel. Le développement personnel, c'est tout un livre, tout un sac à dos rempli d'outils, de disciplines, de modes de pensée, de questionnement, de comment se gérer soi. C'est l'outil du bon manager pour soi-même. Comment se manager soi, comment se parler à soi, c'est tout un tas de choses. On est rarement réellement victime de quelque chose, en tout cas, enfin, je vais reformuler parce que ce que je viens de dire est glissant et n'est pas forcément vrai. On peut être victime, mais dans le cas d'un burn-out, on n'est pas forcément victime. On est souvent quelque part un petit peu responsable de ce qui nous arrive, pas forcément parce qu'on se fait du mal à soi de manière volontaire, mais parce que nos modes de pensée ne sont pas forcément les bons et qu'ils viennent nous heurter ou nous détruire. Pour revenir sur la notion de victime, il y a un triangle qui est le triangle sauveur, persécuteur, victime. Quand on se place sur un de ces trois curseurs, disons, ou sur une de ces trois postures, on va forcément déterminer la manière dont on se traite et dont on interagit avec soi et avec les autres. Et ça va avoir un impact énorme sur la résultante de tout ça. Dans le même registre, il y a une approche qui consiste à se demander à chercher des causes externes ou internes à un problème. Les causes externes, c'est dire « c'est pas ma faute, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi c'est pas ma faute, voilà ce que les autres auraient dû faire différemment ou mieux, et voilà pourquoi j'ai raison. » Et ça revient à nous placer dans une posture de victime. Alors que rechercher des causes internes, ça revient à se demander « quelle est ma responsabilité dans ce problème, dans ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Et qu'est-ce que je peux faire pour solutionner tout ça? Et cette simple reprogrammation, ce simple changement de mode de pensée, de configuration ou d'approche, va avoir un impact énorme en termes de résultats et de bien-être. Pour revenir donc à la question, comment est-ce que ça s'est manifesté? Tout simplement, je pense qu'on est tous, donc nés du verbe naître et pas du verbe être, on est tous... on va dire, pas encore construit sur des insécurités. On apprend à se construire sur des insécurités qui sont causées par nos expériences, par notre entourage, par diverses choses, qui créent des peurs en nous, la peur de ne pas être assez, la peur du rejet, la peur du jugement, beaucoup de peurs. Ces peurs-là, elles ont tendance à se matérialiser de manière inattendue. Elles vont parfois entraîner certains comportements déviants de notre part. Et déviant, ça ne veut pas forcément dire négatif. Par exemple, une personne qui pense ne pas être assez bien ou qui a peur du rejet va chercher à surcompenser dans ses relations avec les autres. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé par exemple à une époque il y a bien longtemps. Chercher à surcompenser pour être accepté. Chercher à
en faire trop, comme on dit.
Pas forcément en faire trop, mais à... C'est une expression anglaise, je suis désolé, on n'a pas en français, c'est fit in, à rentrer dans le moule, à chercher comment rentrer dans le moule.
Conforme à l'idée que l'autre se fait de soi.
C'est ça, et conforme, oui, conforme au cadre de référence et aux idées de l'autre.
Pour plaire.
Pour plaire, c'est ça. Et plutôt qu'assumer mes différences, j'avais tendance à chercher à aller dans le sens des autres pour que ça fonctionne. Et j'ai compris après avec du recul qu'il faut assumer ces différences parce que si différence il y a et que ça ne doit pas marcher, peu importe le nombre de... Peu importe qu'on se travestisse et qu'on essaye de plaire, il y aura toujours friction à un moment donné. Donc autant le laisser arriver dès le début pour éviter de perdre le contrôle là-dessus. Et je reviens donc sur le comment. Quand on arrive à traverser un burn-out, selon moi, on est souvent confronté à une matérialisation de ces insécurités qui ont amené à accepter des choses ou à se suradapter parce que on dit que la personne qui a une forte propension à faire du burn-out, c'est pas celle qui ne sait pas s'adapter, mais celle qui se suradapte. Donc souvent, c'est lié à ces insécurités-là et au besoin de s'adapter. Le comment, ben, tout simplement, un burn-out, c'est la perte de contrôle total sur le moi, sur ses croyances, sur sa confiance en soi, sur son espoir, sur son approche de l'objectif ou de ce qu'on peut faire. C'est la perte totale de ressources, on est vidé. On est confronté à toutes ces peurs, à toutes ces anxiétés, à toutes ces insécurités, et on est complètement désarmé parce qu'on n'a plus aucune ressource à laquelle on peut s'accrocher ou se rattacher pour lutter contre ça. Et quand on fait face à ce burn-out ou à ces peurs-là, sans plus aucune ressource, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on est obligé de les comprendre. On est obligé de les regarder en face, de les comprendre, de les accepter et de les dépasser. On parle souvent de ce triangle, en tout cas les Anglais le font, reconnaître quelque chose, accepter que c'est là. Ne plus chercher à lutter, je le reconnais, je l'accepte, et quand j'ai fait ça, je peux le dépasser.
Alors j'ai le sentiment que vous me parlez de développement personnel, alors que moi j'utiliserais plutôt, après un burn-out, le terme de thérapie. Développement personnel, certes, mais comme s'il devait arriver en amont et non pas après l'événement de souffrance. Et vous le placez, j'ai l'impression, après.
Alors, je le place après parce qu'on parle de burn-out. Maintenant, c'est vrai qu'et à juste titre, comme vous dites, ça devrait arriver tous les jours. C'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à un ami, à un proche, à un enfant, c'est de l'initier au développement personnel pour... Je reviens sur ces insécurités. Ces insécurités, elles nous dictent d'être une personne que nous ne sommes pas. Elles nous dictent d'être une personne qui se crée dans l'ego. Elles se créent dans nos peurs passées et dans nos peurs futures. La peur de ne pas avoir été assez bien ou la peur de ne pas être assez bien le lendemain. Elles nous empêchent d'être qui nous sommes dans le présent. Se développer personnellement et offrir ce cadeau-là aux gens qu'on aime ou à nos proches, c'est leur permettre d'être dans l'instant présent et d'être authentiquement soi. Pour la question de la thérapie, c'est très important, je pense aussi, d'avoir recours à une thérapie dans les phases difficiles ou même pour se comprendre mieux. Mais je pense que la thérapie ne remplace pas le développement personnel et le développement personnel ne remplacera pas la thérapie. En ce sens que Monsieur Johari, je crois que c'était Johari, alors c'est pas un Français, qui parlait de la fenêtre de Johari. Il disait qu'on a quatre grands axes dans l'esprit ou dans la personnalité. Il y a des axes qui sont privés et d'autres qui sont publics. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, mais en gros, il y a une fenêtre qui est personnelle et privée, c'est-à-dire ce que je vois et que les autres ne voient pas. Il y a une fenêtre qui est entre les deux, qui est ce que je vois et que les autres voient. Il y a une fenêtre qui est ce que les autres voient et que je ne vois pas. Et après, il y a une fenêtre complètement opaque qui est ce que personne ne voit.
Qui serait l'inconscient.
Qui est l'inconscient.
Ou le ça, chez Jung ou chez Freud.
Exact. Oui, c'est une très bonne idée. Je garde. Je pense que c'est ça. Et l'idée, c'est de se dire que les deux premières fenêtres sont accessibles. Elles nous sont accessibles puisqu'elles sont visibles par nous et par les autres ou par nous exclusivement. Donc on peut travailler dessus. Et on doit travailler dessus. Parce que c'est un travail de longue haleine qui doit nous apporter... On parle beaucoup de personnel, là. Ça nous apporte du bien-être, mais ça nous apporte aussi, si on rattache au boulot, au travail, pardon, de la productivité, de la réussite, de l'efficacité. La problématique, elle intervient quand, dans ces moments, on va dire, des périodes difficiles ou dans ces moments sombres, on se retrouve confronté à une partie qu'on n'est pas en capacité de traiter, qu'on n'est pas en capacité d'observer, d'identifier, de comprendre, de solutionner. C'est le problème du burn-out, c'est le problème de la dépression, c'est le problème de beaucoup de choses. C'est qu'on ne comprend pas nos mots et donc on ne peut pas les adresser. C'est là que le thérapeute devient important, c'est qu'il va intervenir sur cette fenêtre, cet angle mort, cette fenêtre que l'autre voit et peut comprendre mais que nous ne voyons pas. Et il va aussi nous donner des outils, qui sont peut-être des outils de développement personnel ou de thérapie ou d'autres, pour avoir une lecture différente et une meilleure lecture de nos deux fenêtres à nous, la privée et la publique. D'où l'intérêt de coupler les deux à mon sens.
Eh bien, nous allons nous retrouver très bientôt, Grégory Cailhol, pour explorer ces fenêtres ou peut-être encore en ouvrir d'autres. Je ne sais pas, vous allez nous le proposer. En tout cas, on se retrouve très bientôt, Grégory Cailhol.
Ce sera avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.